Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Un rassemblement polémique dans le Loiret. 700 pasteurs réunis pour l'assemblée générale de leur association, pour le maire de la commune de Nevoy, où a lieu le rassemblement. La sous-préfecture a fait preuve de légèreté en autorisant cette réunion. Journée de manifestation dans plusieurs villes contre la PMA pour toutes et pour le retrait du projet de loi bioéthique. Le nombre de participants était limité dans les cortèges en raison de la situation sanitaire. La Corée du Nord dévoile un missile géant à l'occasion d'un défilé militaire pour les 75 ans de la fondation du Parti des Travailleurs. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a assuré qu'il allait renforcer son armée. Dans ce journal également, du tennis à Roland-Garros, première finale et première victoire en Grand Chelem pour la jeune polonaise Iga Świątek. Et puis ma vie connectée, comme tous les samedis soirs avec Christine Siméon. Ce soir, le flop de l'application Stop Covid. Le temps demain, pluie, neige en montagne, température en baisse. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
En pleine progression de l'épidémie de coronavirus, c'est un rassemblement qui fait polémique et qui inquiète dans le Loiret. Un rassemblement évangélique se tient en ce moment à Nevoy, près d'Orléans. 700 pasteurs venus de toute la France sont réunis pour l'assemblée générale de l'association Vie et Lumière, une mission évangélique de Tziganes de France. La sous-préfecture de Montargis a autorisé cet événement, mais à Nevoy, le maire et les habitants de la commune ont tous en mémoire l'épisode de Mulhouse en février dernier, où un rassemblement évangélique avait donné lieu au premier grand cluster de France. Ce rassemblement, à Nevoy, se tient sous protocole sanitaire très strict. Marion Ferrer.
Cette assemblée se tient sur un terrain privé, ce qui ne nécessite pas l'accord du préfet. Et depuis le petit matin, cette propriété de l'association évangélique Vie et Lumière s'est transformée en un immense parking. Plus de 700 pasteurs se succèdent sous un chapiteau pour élire leur nouveau président. De quoi provoquer l'incompréhension du maire de Nevoy, Jean-François Darmois.
Comment on peut autoriser ce droit de se réunir? On ne comprend pas, on nous donne des directives, on nous demande de faire attention partout. On est dans un petit village, on prend des précautions et tout. Je ne dis pas que les gens du voyage ne prendront pas de précautions, mais on a le droit de craindre, on est en droit de craindre ce qui peut se passer.
La préfecture du Loiret assure tout de même avoir validé le protocole sanitaire et pour le pasteur Stéphane Charpentier, organisateur de l'événement, toutes les précautions ont été prises.
Nous faisons respecter la distanciation entre les personnes sous le chapiteau de 1 mètre. Chaque personne porte un max. Les pasteurs restent sur place ici, chez nous, sur notre propriété.
En préfecture, on l'assure, ce soir, plus aucun membre de l'association évangélique ne se trouvera sur place. Un registre a également été mis en place pour recenser les participants en cas de contamination.
Marion Ferrer, inquiétude également au Royaume-Uni où le Premier ministre Boris Johnson doit annoncer de nouvelles mesures de restriction. Lundi, devant les députés, les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus sont de plus en plus contraignantes au Royaume-Uni et comme partout dans le monde, ces règles sanitaires ont un impact économique parfois douloureux. C'est le cas pour les musiciens qui essaient d'attirer l'attention du gouvernement sur la situation. Et selon un sondage récent, un tiers d'entre eux réfléchissent à changer totalement de métier. Londres, Richard Place.
Pour un musicien britannique, actuellement l'indemnité de base c'est 400 euros par mois. Largement insuffisant, selon Horace Troubridge, le secrétaire général du syndicat des musiciens, affirme qu'ils sont nombreux à avoir lâché les instruments pour devenir livreur ou caissier.
On entend parler tout le temps des professionnels du tourisme, des restaurants, des compagnies aériennes, tous ces gens ont reçu des fonds de soutien, des fonds importants, et l'industrie musicale, on la laisse mourir.
Le syndicat des musiciens propose de rouvrir les salles de concert, même les plus petites, en ne remplissant qu'un tiers de la capacité totale. L'État paierait un tiers manquant, le dernier tiers resterait vide. Pour l'heure, pas de réponse. Cette musique, cette voix, c'est Elisa Shaddad. En janvier, elle chantait à l'Olympia, puis tout s'est arrêté, tous les concerts annulés. La voilà enfermée chez elle à écrire, avec des revenus qui ont nettement diminué.
Toute l'équipe de musiciens avec qui je travaille est en difficulté. J'ai mis 10 ans à créer ce groupe de gens incroyablement talentueux et tout ça est anéanti. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Elisa Shaddad ne se plaint pas. En début d'année, elle a épousé un producteur. Alors, cloîtré chez eux, ils créent un album et la période les inspire. Londres, Richard Place, France Inter.
Richard Place avec Elisa Chadad. En France, l'un des moyens de lutte contre la crise économique liée au coronavirus est pour les entreprises le dispositif de chômage partiel longue durée. Ce matin, sur France Inter, dans On n'arrête pas l'écho, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a annoncé que 1600 entreprises ont signé des accords pour mettre en place ce dispositif. Par ailleurs, le patron du MEDEF a appelé à trouver les moyens de travailler et de produire pendant l'épidémie, notamment pour les bars quand il y a des clients, et éviter ce sentiment de deux poids deux mesures. Geoffroy Roux de Bézieux avec Alexandra Ben Saïd.
Nos adhérents ont beaucoup de mal à comprendre qu'on s'entasse dans un TGV d'un côté et que les distances dans les restaurants rendent les choses très compliquées. Les salles de sport, je prends cet exemple-là, qui ont fait d'énormes efforts, investis dans des cloisons en plexiglas qui nettoient les appareils, etc. Et il y a très peu de clusters dans ces endroits-là. Et donc, il y a parfois, dans certains cas, notamment les restaurateurs, un sentiment d'incompréhension ou d'injustice. Et on a bien vu à Marseille la réaction de colère sur place. Le gouvernement a recadré un peu en autorisant les restaurants et pas les bars. Je pense qu'il faut qu'on trouve le moyen de travailler, de vivre, de produire sous le Covid. Et donc, dans chaque secteur, il faut imaginer un protocole qui puisse permettre de continuer s'il y a des clients, s'il y a des gens qui veulent. Et pour les salles de sport, par exemple, il y a des clients.
Geoffroy Roux de Bézieux dans On n'arrête pas l'écho ce matin sur France Inter. Journée de manifestation contre la PMA pour toutes dans plusieurs villes de France aujourd'hui. Une mobilisation à l'appel du collectif d'associations Marchons Enfants. Les organisateurs réclament le retrait du projet de loi bioéthique et protestent contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Reportage à Paris, Alice Cachaner.
Face au ministère de la Justice, au milieu des bijouteries de luxe parisiennes, une marée de drapeaux verts et rouges, toutes générations confondues, des étudiants, des familles, des retraités, et ils sont venus pour.
Pour défendre la filiation, fondement de la famille.
Pour défendre l'enfant.
Pour défendre la maternité.
Et ils sont surtout contre la PMA pour les femmes célibataires et homosexuelles. Les manifestants redoutent également une étape de plus, je cite, vers la gestation pour autrui. Dans la foule, il y a cette femme de 70 ans, des stickers de la Manif pour tous collés sur sa veste matelassée.
On marche un peu sur la tête quand même, non ? La nature n'est pas faite pour ça. L'Assemblée nationale ne peut pas légiférer sur tout. Il y a des choses qui relèvent du bon sens. Mais on ne va pas faire une loi pour ça, pour quelques minorités qui ont des idées contre nature.
Contre nature, ces mots et cette manifestation blessent ce couple d'hommes qui traversent la place Vendôme.
On est un couple, on a un petit bébé qui a un an, qui a été conçu par GPA.
Et qui a une vraie famille.
On est une famille, point.
Le projet de loi bioéthique a été validé à deux reprises par l'Assemblée nationale. Il est attendu en deuxième lecture au Sénat en début d'année prochaine.
Alice Cachaner. À l'étranger, en Corée du Nord, c'était le clou d'un spectacle bien inquiétant aujourd'hui à Pyongyang. Un missile géant posé sur un véhicule de transport à 11 essieux, le plus gros missile intercontinental jamais vu à ce jour et présenté lors d'un défilé militaire à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord. Personne n'était masqué lors de ce défilé puisque, selon le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, il n'y a pas une seule personne malade du coronavirus en Corée du Nord. Kim Jong-un a également expliqué dans son discours que son pays allait continuer de s'armer. Correspondance à Séoul, Nicolas Roquin.
Il s'agit d'un missile balistique intercontinental ICBM capable d'atteindre entre autres les États-Unis. La Corée du Nord en possédait déjà, notamment le Hwasong 15, mais celui dévoilé ce samedi est géant, plus long, plus large que les précédents. Le message envoyé par Kim Jong-un est pour le moins offensif à quelques semaines de la présidentielle aux États-Unis. Nous continuerons à renforcer notre armée, vive la Corée du Nord, a-t-il entre autres prononcé dans un discours d'une bonne demi-heure, sans mentionner une seule fois les États-Unis directement. Il s'est avant tout adressé à son peuple, s'expliquant sur les difficultés économiques, les restrictions sanitaires et se réjouissant que son pays n'ait pas à déplorer le moindre cas de Covid-19. Avant de s'adresser à ses compatriotes du Sud en espérant qu'ils guérissent au plus vite du coronavirus, une main tendue alors que les tensions entre les deux Corées avaient repris ces dernières semaines lorsqu'un fonctionnaire du Sud a été abattu pour s'être trouvé dans les eaux territoriales du Nord. Pour autant, au-delà des messages symboliques, les réelles prises de décisions politiques seront effectuées en janvier à l'occasion du second congrès exceptionnel du parti, le premier depuis 2016. Nicolas Roca, Séoul, France Inter.
Une grande championne de 19 ans à Roland-Garros. Victoire en finale de la Polonaise Iga Świątek en 2-7, 6-4, 6-1 face à l'Américaine Sofia Kenin. En direct de Roland-Garros, on retrouve Jean-Pierre Blimeau. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Frédéric.
Alors la jeune championne Iga Świątek est un phénomène. Elle n'a pas perdu le moindre set durant ses 15 jours de tournoi et elle remporte sa première finale.
Oui, et c'était l'invitée surprise de cette finale, mais elle a balayé l'Américaine Sofia Kenin 6-4, 6-1, qui partait pourtant avec une énorme pancarte de favorite dans le dos. Alors, il se dégage de cette jeune Polonaise un sentiment de force tranquille. Jamais une joueuse classée 54e au niveau mondial ne s'est imposée à Roland-Garros, premier record. Ensuite, elle n'a pas perdu un set de la quinzaine, vous l'avez dit, ce n'est pas arrivé depuis 2007 avec la belge Justine Henin. Et puis, il y avait le bonheur qui transparaissait. Alors, sous son masque, Covid oblige, elle a reçu la coupe, mais ses yeux pétillaient de joie. Iga Świątek a brandi d'ailleurs la coupe remise par Mary Pierce, titrée 20 ans auparavant. Il y avait beaucoup d'émotions. C'est aussi la première Polonaise de l'histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem. Autre joueuse qui a marqué la journée, elle est française, celle-là, c'est Elsa Jacquemot, 17 ans. Elle a remporté la finale du tournoi junior féminin face à la Russe Sharapova. Une première pour le tennis féminin français depuis la victoire de Kristina Mladenovic en 2009, il y a 11 ans. Et du coup, la Lyonnaise avait du mal à réaliser.
C'est juste incroyable. Je pense que je ne m'en rends pas encore compte. Mais je suis vraiment super contente, vraiment. En plus, en France, je sais que c'est depuis 2009 qu'une Française n'avait pas gagné un grand chelem. Et ouais, je suis super contente. J'avais qu'une envie, c'était de gagner. Je voyais la victoire. J'avais envie d'avoir ce trophée. Et cette rage, elle a fait aussi, ouais, c'est grâce aussi à ça que j'ai gagné. Je savoure ce moment-là, mais je sais que la route, elle est encore longue après.
Alors Elsa Jacquemot avait été invitée par la fédération pour disputer Roland-Garros, le vrai tournoi. Dans le tableau principal, elle a été éliminée au premier tour. Et demain, place à la finale homme, un classique du genre, Nadal Djokovic. Ce sera la troisième finale de ce genre sur la terre parisienne.
Et c'est à 15h. Merci Jean-Pierre Blimeau. Et pour terminer ce journal, on a rendez-vous comme tous les samedis soirs avec Christine Siméon pour Ma Vie Connectée. Et ce soir, on revient sur le flop de l'application Stop Covid, supposée nous aider pour nous mettre à l'abri des personnes en contact avec le coronavirus. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Alors, votre smartphone en main, Christine, vous avez rencontré le hacker Gaël Musquet. Selon lui, il y a mieux que Stop Covid, en tout cas plus efficace pour alerter les populations.
Oui, Gaël Musquet, vous savez, c'est un hacker éthique, c'est-à-dire qu'il cherche les failles des systèmes numériques pour les améliorer. Et pour lui, si Stop Covid n'a pas conquis notre quotidien, ce n'est pas un défaut technologique.
Alors, en deux mots, Christine, personne n'a été formé en détail sur le fonctionnement de l'application.
Vous n'avez pas été familiarisé, Fred, et aujourd'hui, l'Europe demande à tous ses membres de mettre en place des systèmes vraiment efficaces et utilisés. Du coup, Stop Covid ne fait pas le poids, pas plus que SAIP. Vous vous souvenez de SAIP ?
Ben oui, l'application pour nous prévenir en cas d'attentat.
Voilà, qui n'a pas marché bien longtemps et qui a disparu de nos paysages. Désormais, le ministre de l'Intérieur a promis pour 2022 le déploiement de la technologie du cell broadcast.
Et qu'est-ce que c'est le cell broadcast,
Christine ? Alors, cell téléphone, broadcast, diffusion, c'est un système pour transmettre des messages d'alerte directement sur les smartphones, même éteints. On peut prévenir en même temps toutes les personnes d'un quartier ou d'une région en cas de danger. Gaël Musquet a testé dès 2017 aux Antilles ce procédé sur un exercice de tsunami.
En fait, tous les protocoles d'alerte aujourd'hui, d'un point de vue technologique, permettent de contacter, de joindre de manière presque chirurgicale à l'échelle d'un quartier une population. Donc aujourd'hui, la mise en œuvre de ces protocoles-là demande à ce que l'on ait informer, former et alerter les populations. Donc il faut que les personnes jouent leur propre rôle, y compris avec ces nouvelles technologies. Ce n'est pas qu'une question technologique, c'est aussi une question de culture du risque.
Voilà, cela veut dire que les élus, les corps intermédiaires fassent faire des exercices aux populations, qu'on habitue les lycéens par exemple et que l'on dise aux gens que faire, dans quelle situation précisément.
Ma vie connectée, Christine Siméon, merci. Le temps pour demain.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Plus frais, Jean-Michel Golinski.
L'air frais gagne du terrain, s'accompagnant demain d'un ciel d'averse quasi généralisé et témoin de la baisse des températures, l'apparition de la neige sur tous les massifs à partir de 1300 mètres. Sur les Pyrénées, les nuages plaqués sur le relief par un fort vent de secteur nord vont donner des épaisseurs de neige plus conséquentes. Le vent sera également turbulent jusqu'à 100 km par heure pour le Mistral, la Tramontane et les rafales d'ouest sur les Caps Corse. Vent fort qui va maintenir un ciel dégagé sur le Languedoc, le Roussillon et l'ouest de la Provence. Par contre, sur les autres régions, dans une ambiance très variable, il sera difficile d'échapper aux averses, possiblement mêlées de coups de tonnerre, avec l'après-midi 10 à 15 degrés en général, et tout de même 18 à 20 sous le soleil méditerranéen.
Jean-Michel Golinski de Météo France.